Voix Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 14 juin 2023. En direct de Washington, Idrissa Seguia. Pour commencer, les titres. L'ex-président américain Donald Trump dénonce un abus de pouvoir après avoir été inculpé dans l'affaire des documents confidentiels. Le Sénégal enquête sur des vidéos montrant des hommes armés en civil lors des manifestations consécutives à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Au Mali, prison ferme requise contre le célèbre animateur Youssouf Bakili dit Ras Bach pour des propos sur la mort d'un ex-premier ministre. Au Nigeria, le parti au pouvoir désigne le président du Sénat dans la foulée des élections de 2023. L'Arabie Saoudite annonce une conférence internationale pour coordonner l'aide humanitaire pour le Soudan. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Nous commençons par les États-Unis. Donald Trump poursuivi pour sa gestion négligente de secret d'État après son départ de la Maison-Blanche a qualifié hier d'abus de pouvoir odieux son inculpation devant un tribunal fédéral à Miami. L'ancien président s'est exprimé en fin de journée dans le New Jersey. Jean-Roger Bion.
Devant ses partisans réunis à son club de golf dans le New Jersey, M. Trump a accusé son successeur démocrate, Joe Biden, d'être corrompu et de s'en prendre à son principal adversaire. « C'est une persécution politique digne des régimes fascistes ou communistes », a lancé le républicain candidat à la présidentielle de 2024. Il a plaidé non coupable mardi devant le tribunal fédéral de Miami, qu'il a convoqué dans le cadre de son inculpation pour des faits relatifs à sa gestion de documents classés confidentiels et obstruction de la justice. Sauf désormais pour lui un nouveau feuilleton judiciaire, alors qu'il mène campagne pour la primaire républicaine en vue de la présidentielle de 2024. Donald Trump n'a pas prononcé un seul mot durant les 47 minutes qu'aura duré sa comparution devant le magistrat Jonathan Goodman. Il a été inculpé de 37 chefs d'accusation dans l'enquête sur sa gestion de documents confidentiels du gouvernement américain retrouvés l'an dernier à son domicile floridien. L'ex-président est accusé d'avoir mis la sécurité des États-Unis en péril en conservant des documents confidentiels, dont des plans militaires ou des informations sur des armes nucléaires dans des toilettes ou débarras de sa résidence de luxe de Mar-a-Lago en Floride. Il lui est également reproché d'avoir refusé de restituer ses documents malgré des injonctions judiciaires, ce qui lui vaut d'être inculpé pour rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale, mais aussi l'entrave à la justice et faux témoignages. Accusation que Donald Trump qualifie de politisation de la justice.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, au Nigeria, le candidat du parti au pouvoir, All Progressive Congress, a été élu hier président du Sénat après l'inauguration de la nouvelle Assemblée nationale. L'APC détient la majorité des sièges dans les deux chambres. Michel Joseph.
Godswill Akpabio, 61 ans, représentant de l'État d'Akwa Ibom dans le Nord-Ouest, a été choisi mardi comme président du Sénat. Il a été gouverneur de l'État d'Akwa Ibom pendant deux mandats et a promis de travailler en étroite collaboration avec les législateurs des huit partis politiques représentés au Parlement. Il est le troisième personnage de l'État après le président Bola Ahmed Tinubu et le vice-président Kashim Shettima. Le parti APC détient le plus grand nombre de sièges avec 59 sénateurs sur 109 membres, suivi par le Parti démocratique populaire, le PDP, principal parti d'opposition, qui dispose de 36 sièges. Les partis d'opposition ont au total 50 sénateurs. L'APC est aussi en tête de la Chambre basse avec 162 sièges sur 360. Les députés nigérians ont élu Abbas Tajudeen à la tête de la Chambre basse, le nouveau président Bola Ahmed Tinubu a pris ses fonctions le 29 mai après une élection que l'opposition conteste devant les tribunaux. L'ancien gouverneur de l'État de Lagos et homme d'affaires fait de la sécurité et la situation économique ses principales priorités.
Nigeria toujours. 103 personnes sont mortes et plus de 100 ont pu être sauvées dans le centre-nord du pays après qu'un bateau transportant des familles revenant d'un mariage a coulé dans une rivière. C'est le bilan provisoire annoncé mardi par la police et les autorités locales sans préciser les causes du naufrage. Les naufrages de bateaux sur les fleuves et rivières du Nigeria sont fréquents et sont généralement dus aux embarcations surchargées, à leur mauvais entretien et ou au non-respect des règles de sécurité. Au Sénégal, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diom, a annoncé hier l'ouverture d'une enquête après des vidéos circulant sur les réseaux sociaux et dans lesquelles apparaissent des hommes armés en civil accusés de s'en être violemment pris à des manifestants. C'était lors des troubles ayant suivi début juin la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Ses partisans accusent le camp présidentiel d'avoir payé ses nervis pour prêter main forte aux policiers et gendarmes et mater les contestataires. La présence de ces hommes armés, relayée par de nombreux médias locaux et internationaux, a été dénoncé par des défenseurs des droits humains. Au Mali, Youssouf Bakili di Ras Bath, un animateur connu de radio-télévision, a été jugé hier par un tribunal de Bamako. Il avait déclaré qu'un ex-premier ministre mort en détention sous la junte avait été assassiné, des propos pour lesquels 3 ans de prison ont été requis à son encontre. Eric Manirakidza.
Le parquet a requis 3 ans de prison ferme, a déclaré Kassoum Tapo, avocat de Mohamed Youssouf Bakili di Ras Bath, un militant polémiste et animateur. Maître Tapo dit avoir plaidé la relaxe, mais le jugement sera rendu le 11 juillet. Ras Bath est jugé pour avoir déclaré en mars que l'ex-premier ministre Soumaïlou Boubey Maïga n'est pas mort, mais a été assassiné. Il a été inculpé et écroué le 13 mars. Soumaïlou Boubey Maïga est décédé en détention en mars 2022, malgré les appels de ses proches à la junte pour son évacuation vers l'étranger en raison de la détérioration de son état de santé. Par ailleurs, une autre influenceuse, Rokia Doumbia, très suivie sur les réseaux sociaux, doit être jugée aujourd'hui à Bamako. Elle est écrouée depuis mars après s'en être prise durement aux militaires, au pouvoir et à leur échec face à l'insécurité et la vie chère.
Toujours au Mali, le chef de la junte au pouvoir, le colonel Assimi Goïta, a appelé hier ses compatriotes à approuver le projet de constitution soumis ce dimanche 18 juin à référendum et libre, selon lui, de toute immixtion étrangère. Intervenant dans un stade de Ségou, il a dit que le projet a été fait par les Maliens, assurant, malgré un certain nombre d'oppositions, que le texte était le résultat d'un travail consensuel de toutes les sensibilités. La junte a fait du rétablissement de la souveraineté nationale son mantra. Elle a rompu l'alliance avec la France contre les djihadistes et s'est tournée militairement et politiquement vers la Russie, souligne ses critiques. L'Arabie Saoudite annonce la tenue d'une conférence internationale pour coordonner l'aide humanitaire au Soudan, théâtre de combat entre deux généraux rivaux depuis près de 2 mois. La rencontre, dont le lieu n'a pas été précisé, est prévue pour le 19 juin. Alexandrine Ollognon.
La conférence verra la participation du Qatar, de l'Égypte, de l'Allemagne, de l'Agence humanitaire de l'ONU, de l'Union européenne et de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés. Depuis le début des combats le 15 avril dernier, l'Arabie saoudite et les États-Unis mènent des négociations entre les deux parties à Jeddah en vue d'arriver à un cessez-le-feu. Mais les nombreuses trêves n'ont jamais été respectées et l'aide humanitaire qui devait être acheminée grâce à ces mesures est arrivée au compte-gouttes. Les ONG ne cessent de tirer la sonnette d'alarme sur la situation qui se détériore. À la mi-mai, l'ONU avait estimé que peu de la moitié de la population soudanaise avait besoin d'assistance. L'organisation dit avoir besoin de 2,6 milliards de dollars pour leur venir en aide et près de 500 millions de dollars pour ceux ayant fui vers les pays voisins.
Le monde compte 110 millions de personnes qui ont été forcées de fuir leur foyer, a révélé hier, ou plutôt ce jour même, l'ONU, qui voit dans ce nombre record un réquisitoire contre l'état du monde. Les récents combats au Soudan ont encore aggravé une situation déjà rendue extraordinaire en 2022 par l'invasion de l'Ukraine par la Russie ou la crise humanitaire en Afghanistan. Jamais le nombre total de réfugiés fuyant leur pays ou de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays n'avait atteint un tel niveau, a souligné le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU dans son rapport annuel. La Minute Éco, Alexandrine Ollognon.
Afrique du Sud, les législateurs sud-africains ont adopté un nouveau projet de loi sur l'assurance maladie, ouvrant la voie à des soins de santé universels pour des millions de Sud-Africains plus pauvres. Le projet de loi, qui sera mis en œuvre par étapes et coûtera des milliards de dollars, propose un fonds spécial qui mettra en commun les ressources publiques et privées et limitera les fournisseurs privés d'aide médicale à la couverture des seuls services non remboursables par le fonds NHI. La Tunisie prépare une proposition alternative à soumettre au Fonds monétaire international après que le président Kais Saied a rejeté les termes d'un accord de prêt de 1,9 milliard de dollars négocié l'année dernière. Les discussions sur le renflouement sont au point mort depuis le mois d'octobre, date à laquelle la Tunisie et le FMI sont parvenus à un accord préliminaire. Et pour finir, le Parlement européen et les États membres de l'Union européenne annoncent avoir trouvé un accord sur la numérisation de la procédure de visa pour les pays de l'espace Schengen. Cet accord, qui devra encore être entériné formellement avant d'entrer en vigueur, permettra à la plupart des demandeurs d'un visa Schengen d'effectuer leur démarche en ligne sur un site internet unique plutôt qu'auprès d'un consulat.
Merci Alexandrine. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Début ce mercredi des matchs de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023.
Trois matchs au programme, Soudan du Sud, Gambie, Sao Tomé et Principe, Guinée-Bissau et Guinée-Égypte. Cette dernière rencontre délocalisée à Marrakech, faute de stade homologué. En Guinée, est une lutte pour la qualification, mais aussi une bataille pour la suprématie dans le groupe D. Les deux équipes comptent 9 points chacune. Le dimanche 18 juin, le Gabon accueille la RDC au stade de Franceville. Malgré leur place de leader du groupe I, les Panthères ont besoin d'une victoire à domicile face aux Léopards pour assurer leur qualification. Le sélectionneur Patrice Neveu s'est entouré de tous les cadres de l'équipe en rappelant Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina qui avaient marqué leur disponibilité à réintégrer la sélection nationale après avoir pris leur distance.
Je suis satisfait, je dirais que c'est quelque chose dans la mesure où ça, c'est quelque chose que les joueurs souhaitaient. Donc bien évidemment que la porte étant restée ouverte, c'est avec plaisir que moi-même et leurs coéquipiers, on va reprendre le travail avec eux pour aller chercher cette qualification surtout. Donc ça, c'est pas du tout, il n'y a rien d'écrit à l'avance. C'est-à-dire que le positionnement, la titularisation, même si effectivement, en parlant clairement, il y a des idées qui se dégagent, mais après il y a le stage qui est là, il y a tout un tas d'éléments qui rentrent en ligne de compte.
Patrice Neveu, sélectionneur des Panthères du Gabon, au micro de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangzi.
Match à enjeu également dimanche dans le groupe G, celui du Mali.
Le sélectionneur des Aigles du Mali, Eric Sekou Tchel, a convoqué 28 joueurs pour le match face au Congo, deuxième de la poule G avec 6 points derrière le Mali, premier avec 9 unités. Le coach malien dit s'attendre à une rencontre difficile.
On s'attend à un match difficile, un contexte compliqué. C'est à nous déjà de nous mettre dans des bonnes conditions pour bien aborder ce match et tout de suite d'être très ambitieux là-bas. Ça ne va pas être un match facile. On a la capacité et les possibilités pour être très ambitieux là-bas. On va y aller avec beaucoup d'envie, puis après on fera les comptes à la fin des 90 minutes.
Eric Sekou Tchel, sélectionneur des Aigles du Mali, au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur l'inculpation formelle de l'ancien président américain Donald Trump lors de sa comparution historique hier à Miami devant un tribunal fédéral, inculpation qu'il a dans la soirée qualifiée d'abus de pouvoir odieux. Il avait auparavant plaidé non coupable par la voix de son avocat des charges à son encontre. M. Trump est poursuivi pour sa gestion négligente de secret d'État après son départ de la Maison-Blanche. À Miami, les autorités avaient renforcé la sécurité pour parer à tout débordement en cas de manifestation après des appels sur les réseaux sociaux à défendre M. Trump, qui est candidat à la présidentielle de 2024. Pour en savoir plus sur l'atmosphère qui prévalait autour du tribunal, Idriss Fall a joint Serge Michel, correspondant du service créole de la Voix de l'Amérique, à Miami.
Il y a beaucoup de manifestants avec des pancartes disant oui, 2024, USA, Trump, des choses de ce genre. Et on dit que c'est un abus de ceci, de cela. Ensuite, il y a aussi d'autres qui sont contre l'ancien président et qui affichent des pancartes disant « Lock him up, mettez-le en prison ». Donc, il y a beaucoup de mesures de sécurité au centre-ville de Miami. Mais les gens, en fait, la grande foule n'a pas vu l'entrée de Trump au tribunal parce qu'il est passé par une porte en arrière, une porte qui n'est pas ouverte au public, un grand portail qui n'est pas ouvert au public, qui relie le garage, le parking au building du tribunal. Donc, il y a beaucoup de barrages, donc les gens ne peuvent pas accéder à cette partie de la rue. La rue est extrêmement difficile, comme la route qui part de Doral jusqu'au centre-ville. Il y a des voitures qui ne peuvent pas circuler, qui attendent jusqu'à ce que la route s'éclaircisse. Donc, ce n'est pas une petite affaire ici à Miami.
Et donc, on craignait des débordements, donc il n'y a pas eu autant de débordements qu'on ne craignait alors.
Il n'y a pas eu de débordements, mais il y a beaucoup de mesures de sécurité. Il y a les policiers qui viennent avec des chiens, détecteurs de bombes, des choses de ce genre.
Serge Michel, correspondant du service créole de la VOA à Miami.
Washington, la Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portail.
Au Togo, les auteurs, diffuseurs et promoteurs de chansons et films à caractère obscène ou portant atteinte aux bonnes mœurs seront désormais sanctionnés. Le ministre de la Culture qui a pris cette décision explique que l'objectif est de mettre fin à ces pratiques qui, dit-il, n'honorent ni la musique ni le cinéma togolais. Au sein de l'opinion nationale, les avis sont partagés. De Lomé, notre correspondant, Kossi Wusu.
À l'annonce de cette mesure, Akleso Aguzu, amateur de musique et conseiller municipal, applaudit des deux mains et apporte son soutien à la décision du ministre de la Culture.
Quand on est dans une société, c'est l'artiste à travers son art qui vient corriger les mœurs. Mais qu'on soit aujourd'hui à assister à des actes et des paroles obscènes de la part des artistes, que des artistes se substituent aux pornographes, c'est tout simplement dangereux. Nous sommes des Africains, nous avons des valeurs. Nous ne devons pas poser des actes pour porter atteinte à nos mœurs. C'est en ce sens que nous soutenons la décision du ministre de la Culture.
Les sanctions définies en collaboration avec la Fédération togolaise de musique vont du retrait de la carte du Bureau togolais des droits d'auteur et de l'attestation d'artiste ou de cinéaste à la radiation pure et simple du registre national des artistes. Le code pénal est aussi évoqué. Pour l'artiste Eric MC, un des pionniers du rap au Togo, les autorités ne doivent s'en prendre qu'à elles-mêmes, car elles ont favorisé l'émergence de cette catégorie d'artistes qu'elles veulent sanctionner aujourd'hui.
Dans les années 2000, il y a eu beaucoup de groupes qui étaient sortis, qui étaient pleinement engagés, conscients. Mais tous ces groupes ont été décapités parce que les textes n'avantageaient pas le système en place. Aujourd'hui, maintenant, les jeunes se sont mis dans l'amour jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ça rentre dans la vulgarité. Maintenant, on veut les censurer. Moi, je suis pas d'accord.
Tout en reconnaissant au ministre de la Culture le droit de faire la police dans son secteur, Jerry Tama, écrivain et député à l'Assemblée nationale, craint que cette mesure ne tue le génie créateur des artistes togolais.
Pour moi, je considère que la création artistique aujourd'hui est quelque chose qu'il faut encourager, non pas parce que j'encourage l'austérité, mais j'encourage le génie créateur. Il faut beaucoup plus agir sur la diffusion que sur la créativité, parce que si par exemple un artiste togolais chante une chanson qui est jugée obscène au Togo, mais qui n'est pas jugée obscène dans un autre pays, il aurait la possibilité de pouvoir la diffuser.
Alain Blaise Junior est présentateur d'émissions de musique sur une radio locale dans la capitale. Il entrevoit des difficultés pour l'application de cette mesure.
Aujourd'hui, ces artistes qui sortent ces genres de chansons, ils ne vont pas vers les radios, c'est sur les réseaux. Et voilà quelqu'un qui va acheter du méga pour 200 francs, il télécharge, puis il partage entre eux. Aujourd'hui, c'est vrai, ils ont pris une décision, est-ce qu'ils vont l'appliquer? Parce qu'à chaque fois, au Togo ici, on fait sortir des lois, mais on ne les applique pas.
Kossi Oussou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Au Bénin, la production du sel se fait de façon traditionnelle et le pays repose sur une importante consommation de bois de mangrove. Cette activité et de nombreuses autres ont fait perdre aux côtes et lacs béninois plusieurs milliers de mangroves. Selon les chiffres de l'Agence béninoise pour l'environnement, 15 000 mètres cubes de bois sont consommés par an. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Flair-Adambé.
Pris au piège au milieu des palétuviers et d'autres espèces végétales poussant dans les habitats salés tout le long des côtes béninoises, se découvrent majestueusement les mangroves. Les populations riveraines sont conscientes du rôle qu'elles jouent en matière de protection de l'environnement et des espèces animales.
Vous savez, nous sommes au bord de la mer, c'est la salinité, etc. Donc il faut que la plante puisse gérer cette salinité-là. C'est un milieu vaseux, un milieu aphétique.
Ce bois-là, il est imputrescible et les termites ne l'attaquent pas. Il y a des variétés d'oiseaux, par exemple, qui quittent les Pays-Bas pour venir passer l'hiver de l'hémisphère.
Les mangroves qu'on retrouve le long des côtes du Bénin, à Ouida, à Bonikalavi et sur le lac Aimé, sont une forme d'attraction. Mais pour les pêcheurs, elles représentent bien plus.
La mangrove, c'est une espèce très importante pour nous parce que ça permet à ce que les fruitains se reproduisent et ça empêche maintenant les matins pêcheurs, par exemple, de pêcher ces fruitains-là. Donc ça permet aussi à ces fruitains-là de grandir dedans. Il y a les animaux, ces espèces, les oiseaux qui grandissent dedans. En plus de ça, ça purifie l'air.
L'Agence béninoise pour l'environnement veille à la sécurisation de cette espèce. Mais pour François Corneille Kedouiri, directeur général de l'agence, parvenir à sauvegarder les mangroves n'est pas chose facile.
Les mangroves sont très menacées au Bénin. Parce que d'abord, les femmes les utilisent dans la région de Djemali pour produire du sel. Et les populations aussi les enlèvent dans la région de Grand Poco, à l'ouest, etc. pour en faire des feux de bois. On les prend aussi pour faire des procès avec les acajas. Donc ça, une utilisation multiple et multiforme. Ce faisant, les gens n'oublient pas l'apport positif des mangroves, puisque c'est une zone de frayère de l'espèce halieutique qui est assez importante, les crevettes, poissons, etc. Mais aussi une zone de protection contre les éoliennes petites côtières. Si on enlève les mangroves, on laisse la côte ouverte pour les éoliennes côtières.
Ces écosystèmes qui forcent l'admiration le long de la côte ouest et dans de nombreuses villes béninoises attirent la curiosité des scientifiques qui y ont consacré maintes études. C'est le cas du laboratoire de biomathématiques et d'estimation forestière, l'ABEF, de l'université d'Abomey-Calavi, qui depuis sa création en 2015 s'est engagé à produire des recherches sur les mangroves. Romain Kakaïguilele est le premier responsable de ce laboratoire. Il parle de l'histoire des mangroves au Bénin.
Guinée.
La tendance de régression a été obtenue pour la période allant des années 1988 à 2001. Et de façon globale, la côte du Bénin a perdu environ 50% de ses formations de départ durant cette période. En dehors de cette première tendance, nous avons obtenu une seconde tendance qui est l'augmentation des superficies et de mangroves, et ceci durant la période allant des années 2001 à 2019.
De Cotonou, c'est notre fait à donner pour VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine, suite et pas fin des démêlés judiciaires de Donald Trump. L'ancien président, qui veut retourner à la Maison Blanche en 2024, a été inculpé de 37 chefs d'accusation, dont rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale. Ceci alors qu'il fait déjà l'objet de poursuites judiciaires à New York pour fraude de comptables présumés. Trump et ses partisans dénoncent une chasse aux sorcières. Que signifient ces nouvelles poursuites pour les États-Unis et pour l'avenir politique de l'ancien président? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel et en rediffusion samedi et dimanche.
Au Cameroun, et nous vous le disions hier, John Frundi, le président du SDF, Social Democratic Front, est décédé dans la nuit de lundi à mardi à Yaoundé, comme l'a annoncé dans un communiqué le vice-président de ce parti, Joshua Ossi. De nombreux Camerounais saluent la mémoire et le parcours politique de ce libraire anglophone, devenu dans les années 90 un farouche opposant au président Paul Biya. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Plusieurs Camerounais ont appris le décès de John Frundi, le président du Social Democratic Front, SDF. Au centre administratif de la capitale, le souvenir de l'opposant est encore dans les mémoires. Daniel Ekoka, agent au ministère du contrôle supérieur de l'État.
Ce monsieur nous a fait rêver en 1990, donc nous avons gardé de lui une image très positive, parce que c'est à partir de John Frundi qu'on a su qu'il y a de l'opposition au Cameroun. Il a pu tutoyer le parti au pouvoir.
Le 26 mai 1990, John Frundi, libraire de profession, personnage très peu connu de la scène politique, défie le pouvoir en place et organise à Bamenda, sa ville natale, une marche pour l'instauration des libertés publiques et d'associations au Cameroun. Joseph Zé, syndicaliste.
Il est même présenté comme le père de la démocratie. Parce qu'à la création de son parti, je crois que son parti avait perdu 4 à 6 militants. Parce qu'il était interdit de manifester une autre son politique. Mais il l'a fait et ça a poussé le pouvoir en place à voter des lois sur les libertés.
Le temps semble avoir suspendu son vol au siège régional du Social-Démocratique Front à Yaoundé, par l'ombre d'un personnage du parti, lors de notre passage. Seul Moïse Atoudi, un militant du SDF, traîne par là et exprime sa tristesse sur la disparition de John Frundi.
Nous sommes très affectés parce que nous avons perdu l'homme de l'année. Nous sommes vraiment affectés, on ne sait pas si on aura encore quelqu'un d'autre comme lui, mais que Dieu nous aide.
La résidence de John Frundi, en Kolfoulou, au nord de Yaoundé, est le lieu de convergence d'un plus grand nombre de personnes, des membres de la famille, des leaders de partis politiques et responsables du parti du SDF arrivent les uns après les autres. Félix Gildal Mbida Belinga, président régional du SDF pour la région du Sud, pleure un leader aux multiples casquettes.
C'est un père et un combattant, une personne honnête, quelqu'un qui a défendu les causes, qui nous a toujours conseillé, qui nous disait toujours qu'il faut être courageux et les choses vont changer le moment venu.
John Frundi a lutté pendant 3 décennies contre le président Paul Biya et s'est vu attribuer 36% de suffrages exprimés contre 39 pour le président actuel. Mais à sa mort, le chairman Frundi n'avait plus l'aura d'antan. Il est Kamga, membre de la société civile.
Et malheureusement, ces 10 dernières années ont plus rapproché M. Frundi particulièrement de M. Biya et du RDPC que du peuple. Que ce fût pour la question de la crise anglophone, ça a été la même chose pour les signatures avec le RDPC au Parlement.
À son décès à 81 ans, John Frundi laisse 2 factions du SDF qui se discutent les rênes du parti. Le différent est encore devant les juridictions. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Merci Emmanuel. Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sudoudia. À la mise en onde, Georges Léonard Sagno. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.